C'est un plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Blaise-Pierre Imbert, parce que c'est un endroit précieux pour traiter de la chose. Le centre Alfred Binet ici, il s'occupe de santé mentale des bébés et aussi des enfants et des adolescents, et d'entendre tes travaux sur l'attachement, ta connaissance de l'attachement. J'aimerais bien que tu commences par parler de ton histoire par rapport à la théorie de Bowlby, si tu veux bien.
Beaucoup de parents s'inquiètent de savoir qu'est-ce qu'il en est du développement social, émotionnel de leurs enfants lorsqu'ils ont à recourir à un mode de garde, à la crèche, notamment, ou le plus souvent encore, à placer leur enfant chez une maman de jour. Récemment, le Monde a sorti une première page avec un titre disant les salariées américaines ne sont pas des mauvaises mères. Alors tout ça, c'était suite à une enquête nationale aux États-Unis faite par le NIH qui aurait démontré finalement que toutes ces craintes au niveau de l'attachement n'étaient pas fondées. Cette étude avait finalement donné des résultats disant qu'il n'y avait pas de problème majeur à ce niveau-là et que finalement les mères pouvaient en toute confiance mettre leurs enfants dans les crèches et que c'est pas pour autant que l'attachement à leur mère serait dilué ou serait reporté sur une autre personne. Enfin bon, toutes ces équipes qui se sont lancées dans l'étude de l'attachement sont parties du point de vue qui était inauguré en quelque sorte par Bowlby et son intérêt pour l'éthologie, et toute une grande série d'équipes dans le monde, surtout anglo-saxonnes et dans les pays germaniques, se sont lancées dans l'exploration de cette sorte d'éthologie de l'attachement. Et puis depuis il y a une dizaine d'années, depuis le milieu des années 80, une série d'équipes ont développé un intérêt pour l'attachement adulte. Alors, ce qui est important maintenant, c'est qu'on assiste depuis le milieu des années 80 à une sorte d'engouement, de fascination des chercheurs pour la problématique du transgénérationnel. Pour pouvoir dire un mot au niveau du transgénérationnel, je pense qu'il faudrait que j'explique en quelques mots la problématique de la situation étrange. En fait, Mary Ainsworth avait imaginé un dispositif d'observation expérimentale, c'est-à-dire qui puisse correspondre aux critères de scientificité, qui puisse permettre une répétition des observations, c'est-à-dire qui obéisse à une certaine rigueur dans la procédure. Ça se passe dans une pièce de laboratoire avec des caméras. C'est une situation assez même tellement standardisée qu'on le sait à l'avance, ça durera 21 minutes. C'est-à-dire qu'elle est composée d'un certain nombre d'épisodes, de 7 épisodes en fait, qui durent chacun 3 minutes environ. C'est une sorte de scénario, c'est-à-dire que le parent, et ça peut être le père, ça peut être la mère, au début c'était que la mère, et maintenant on le fait aussi avec le père, bien entendu. Le parent reçoit des instructions sur ce qu'il devra faire, et chacun de ces épisodes est codifié, les comportements du parent sont codifiés, et très brièvement, donc le premier épisode, la mère est là avec le bébé dans la pièce, des jouets sont posés sur le sol, et ensuite, au bout de 3 minutes, entre une personne inconnue qui vient là et qui s'assied, qui ne dit rien, qui entre progressivement en contact avec le bébé. Puis la mère s'en va. La mère revient ensuite. Et puis finalement, la mère s'en va et laisse l'enfant seul.
Maman.
et la personne étrangère revient et la mère revient. Enfin, un scénario un peu compliqué comme ça, mais qui est intéressant parce que déroulé toujours de la même manière, il permet effectivement de pouvoir tirer des conclusions qui sont avérées très fiables finalement sur la réaction de l'enfant à cette situation. Alors juste encore un mot pour dire que c'est une situation qui au départ avait été utilisée avec des bébés de 12 mois, c'est comme ça que Mary Ainsworth l'avait conçue. Elle était ensuite utilisée sur des enfants de 2 ans, ensuite 3 ans, 4 ans, et maintenant on l'a fait jusqu'à l'âge de 6 ans pratiquement. C'est-à-dire qu'on utilise toujours cette procédure-là, et finalement pratiquement les mêmes catégories de codification, et on a trouvé qu'à l'âge de 6 ans encore, on retrouve les mêmes comportements d'utilisation du parent comme une source de sécurité, ou au contraire, le fait de vouloir se trouver suffisamment fort pour affronter la situation sans avoir besoin de se réassurer, ou encore cette troisième catégorie donc d'enfants, là, de jeunes enfants donc, qui tentent plutôt à s'accrocher aux parents et à ne pas être satisfaits de ce qu'ils reçoivent du parent. Mary Ainsworth avait imaginé cette fameuse situation étrange. Évidemment, au moment où elle l'a imaginée, elle était loin de penser que ça aurait un tel succès. Et ça, c'était à la fin des années 60. Elle avait conçu cette idée que certains enfants montraient un attachement sûr, c'est appelé « sécure ». Ce terme a eu énormément de succès par la suite, alors que d'autres bébés montraient un attachement, une forme d'attachement un peu déviante, un peu différente, qu'elle appelait insécure. L'enfant sécure est l'enfant qui sait bénéficier de la présence de sa mère pour pouvoir se sécuriser et de manière à pouvoir s'ouvrir au monde extérieur. Et ça, une découverte impressionnante et très intéressante de la théorie de l'attachement qui confirmait là, les idées de Bowlby. C'est que l'attachement, contrairement à ce que certaines critiques de Bowlby ont voulu dire, et notamment, là, je ne parle pas des critiques psychanalystes, je parle des critiques du domaine du tempérament, par exemple. Ils disaient, mais l'attachement, ce que vous mesurez avec votre attachement, c'est de la dépendance. Hein. Et alors, Bowlby, et je crois que ça a été concrétisé là par Mary Ainsworth, peuvent prétendre, non, ce qu'est l'attachement, c'est peut-être même le contraire de la dépendance. C'est le contraire parce qu'un enfant qui a un attachement adéquat, « sécure », comme dit Mary Ainsworth, eh bien, c'est un enfant qui est capable d'utiliser son parent comme une fameuse base sécurisante.
Écoute, maintenant, ce que je vais te proposer, c'est qu'on fasse des histoires ensemble, d'accord? Moi, je commence les histoires et puis toi, tu les continues. D'accord? Puis on fait des histoires avec ces petites poupées. Regarde. Ça, c'est maman. Ça, c'est
papa.
La technique de jeu, on l'a empruntée en fait à une équipe, même plusieurs équipes américaines qui utilisent cette technique-là, qu'ils appellent le story completion task. Ça veut dire vraiment littéralement, c'est les histoires à compléter.
Ça, c'est quoi?
Un gâteau.
C'est un gâteau d'anniversaire.
Alors, c'est la maman qui a préparé ce bon gâteau d'anniversaire et puis elle dit...
Ensuite, vous allez voir des histoires dans lesquelles seront impliqués des affects, des sentiments ou des émotions à l'égard des figures parentales. Donc des histoires qui vont mettre en scène les deux parents avec différentes émotions qui sont suggérées. On va voir comment l'enfant termine ses histoires en mettant en scène ses émotions.
Alors, c'est le soir. Et puis, toute la famille est autour de la table. Ils sont en train de souper. Et puis, Julie, elle veut prendre quelque chose sur la table. Puis, tout à coup, oh, boum! Elle fait tomber son sirop. Puis, la tasse, elle tombe. Et maman, elle dit, oh, Julie, tu as fait tomber ton sirop.
Après, il est cassé. On doit le mettre à la poubelle.
Ouais. Qui c'est qui le met à la poubelle?
Maman.
C'est la maman.
Voilà. Quelle est la solution trouvée par la fillette, en fait, dans cette situation qui pourrait éventuellement appeler quelque chose de l'ordre d'une réprimande de la part des figures parentales. Donc voilà une situation, une résolution assez conventionnelle. On va mettre le sirop à la poubelle. La fillette ne parle pas de sentiments, disons, dans cette histoire.
Hop, elle court, et l'escalade le rocher. Oh, regardez comme je grimpe sur ce grand rocher. Et tout à coup, poum! Aïe, je me suis fait mal aux genoux.
Elle va aller chez maman. C'est pas grave.
Ah, bon, ça va alors. Et qu'est-ce qu'ils font à son genou?
Mettre un pansement.
Alors ici, on est beaucoup intéressé à la façon dont l'enfant peut mettre en scène dans ses histoires, donc symboliser la façon dont le parent peut prendre en charge un aspect de réconfort. Vous avez vu ici, le petit garçon s'est blessé au genou en tombant dans le rocher. Et le parent, là, la mère, fait office donc, de réconfort. Elle va réparer, mettre un sparadrap, etc. Et ça, c'est un élément important donc, pour nous de savoir si l'enfant peut représenter ce genre de situation, c'est-à-dire où le parent peut apporter un réconfort. Et là, vous allez voir une histoire qui se passe dans la chambre à coucher. C'est pas le fantôme dans la chambre à coucher, comme on raconte souvent, mais c'est le monstre dans la chambre à coucher.
D'accord, je vais me coucher. Au revoir papa, au revoir maman, au revoir Bertrand. Elle va se coucher. Et quand elle va dans sa chambre, elle crie « Papa, maman, j'ai peur, il y a un monstre dans ma chambre !» Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a pas de monstre!
La maman, elle dit « il n'y a pas de monstre ». Mais si, moi j'en vois un de monstre.
Mais non, il n'y a pas de monstre!
Au revoir! On va partir en week-end. Au revoir les enfants!
La maman, elle va là. Le papa, il va là.
Voilà, donc les parents partent en week-end. Les enfants vont rester avec la grand-mère.
Alors, ils partent en week-end.
Qu'est-ce qui va se passer?
Au revoir. Ils vont très loin. Et puis, on y est voir plus.
Elle collabore bien, elle accepte visiblement de mettre en scène les enfants en l'absence des parents, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ils jouent à cache-cache.
Évidemment, le cache-cache évoque aussi la séparation, la disparition.
Toi, tu les fais casser, moi, je les fais compter.
Puis c'est un contrôle de la séparation et de la disparition avec le cache-cache. On compte et puis ensuite on cherche. Le retour des parents évoque un petit peu ce qu'on filme dans la situation étrange, évidemment. Mais là, c'est représenté. Donc, l'enfant va représenter l'attitude des enfants au retour des parents.
Et aussi après, d'accord. Alors, papa et maman, ils disent.
En fait, on n'est pas là encore dans le domaine de la clinique, vraiment. Je ne veux pas dire par là que le tiers des enfants insécures sont un tiers d'enfants avec un attachement pathologique, par exemple. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense que là, ce qu'on montre avec cette trichotomie, en quelque sorte, c'est plutôt quelque chose de l'ordre des stratégies relationnelles. C'est comme ça que j'appellerais ça. On n'est pas forcément là dans le domaine de la clinique. Je pense que très probablement, on trouvera peu... on trouvera peu chez les enfants qui ont des problèmes de l'attachement, on trouvera peu d'enfants sécures, certainement. Mais je pense pas qu'on puisse imaginer que les enfants qui ont un attachement évitant soient des enfants qui ont une forme de pathologie ou même un attachement pathologique. Je pense qu'à la limite même, et ça certains Américains l'ont dit, à la limite même, on pourrait envisager que c'est une forme adéquate. C'est une stratégie qui fonctionne, peut-être plus solide. Évidemment, quel est le prix, ça on ne sait pas exactement. Mais ceci dit, je pense qu'il faut encore nuancer, c'est-à-dire je ne pense pas que ce soit très propice d'utiliser cette fameuse situation étrange pour faire un diagnostic.